France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Ces derniers mois, acteurs privés et publics ont massivement investi dans l'IA. Selon le cabinet Gartner, à travers le monde, les dépenses dans l'IA devraient atteindre environ 1500 milliards de dollars cette année, plus de 2000 milliards en 2026, soit près de 2% du PIB mondial. Résultat, une augmentation rapide des prix des actions et des valorisations boursières. Pourtant, beaucoup des fleurons internationaux dans ce domaine peinent à être rentables et de plus en plus d'acteurs craignent ainsi la formation puis l'éclatement d'une bulle spéculative. Alors ces inquiétudes sont-elles justifiées ? Peut-on considérer ces investissements dans l'IA comme raisonnables, crédibles ? Est-il censé de comparer la situation actuelle à celle de la bulle Internet dans les années 2000 ? Deux invités ce soir enjoués par leur sujet. Julien Pillot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et enseignant-chercheur à l'INSEC Business School. Face à vous, Benjamin Pageau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé au Centre géopolitique des technologies de l'IFRI. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
AI bubble.
The AI bubble.
The AI bubble.
La bulle de l'IA.
Bulle dans l'IA.
La bulle de l'IA.
C'est une sorte de bulle technologique. Les bonnes idées comme les mauvaises sont financées. Et les investisseurs ont du mal à distinguer les bonnes idées des mauvaises. C'est probablement ce qui se passe aujourd'hui.
Vous avez un niveau de spéculation qui est extrêmement élevé aujourd'hui. Vous avez des dépenses d'investissement qui sont extrêmement élevées et qui vont finir par avoir un impact dans la vraie vie.
Burry says that artificial intelligence is more of a bubble. Then a revolution.
La vague actuelle d'investissement dans les technologies fait écho au boom de la fin des années 90. À l'époque, c'était Internet. Aujourd'hui, c'est l'IA.
This is a kind of industrial bubble.
Nous sommes évidemment face à une bulle spéculative géante.
Alors, je voudrais vous parler d'un homme pour commencer. Il s'appelle Michael Burry. Michael Burry, on sait que Wall Street aime bien les mythes et les grands récits. C'est l'homme qui avait prédit en 2008 la crise des subprimes, à peu près avant tout le monde. Et cet homme-là prédit une nouvelle chute, un nouveau crack boursier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il vient de miser plus d'un milliard de dollars sur l'effondrement des actions de deux mastodontes du secteur, Palantir et Nvidia. Est-ce qu'à votre avis, Julien Pillot, cet homme-là, Michael Burry, a raison ?
Est-ce qu'il a raison ? Il a intérêt à avoir raison, puisqu'il est jugé parti dans l'affaire, puisqu'il mise sur la décroissance ou le dégonflement des valorisations des boîtes que vous venez de citer, Quentin. Il n'en demeure pas moins que Michael Burry, sur les dernières années, pour ne pas dire sur la dernière décennie, a fait plus de mauvais paris que de bons paris. D'accord ? Donc sa parole peut être remise en doute. Il ne s'agit pas de remettre en doute en question ses capacités analytiques, mais peut-être plus sa capacité à pouvoir être clairvoyant sur le court et le moyen terme. Et la question qu'il pose en filigrane, c'est finalement, est-ce que ces valorisations sont arrivées à un tel niveau qu'elles ne peuvent plus que redescendre ? Et si oui, jusqu'à quel niveau peuvent-elles redescendre ? Donc la question, c'est la question de la bulle. Et une bulle, c'est quoi ? C'est finalement c'est quelque chose qui se forme lorsque beaucoup d'investisseurs ont les mêmes anticipations de valorisation autour d'une industrie particulière. Aujourd'hui, on parle de l'IA. Et en viennent à pouvoir mettre de plus en plus d'argent dans les entreprises qui se positionnent comme étant les pionnières de cette industrie. Aujourd'hui, des entreprises comme Palantir, comme CoinWave, ou comme Microsoft, Amazon, ou Google, par exemple, ou OpenAI, avec ChatGPT.
Voilà pour la définition de la bulle, mais alors vous n'échapperez pas, Julien Pillot, à, j'allais dire, cette question-là. Votre analyse personnelle, est-ce qu'on est dans un moment de formation de cette bulle dans le domaine de l'intelligence artificielle ?
Alors, il y a des valorisations, effectivement, qui ont pu gonfler de façon extrêmement rapide et probablement de façon trop rapide au regard de la capacité des entreprises à générer du résultat dans l'économie réelle. Là, il y a une vraie déconnexion, mais quelque part, c'est pas tout à fait anormal parce que les marchés d'innovation, et c'est ce qu'est finalement l'intelligence artificielle, sont des marchés qui s'intéressent davantage à la capacité des entreprises à lever des fonds plutôt que les capacités à très court terme d'entreprise à faire des bénéfices sonnants et trébuchants.
À être rentable.
À être rentable. La question du dégonflement de la bulle va se poser. Il y aura probablement des mécanismes de correction parce que les investisseurs aiment bien prendre de temps en temps des profits. Ils voient que les actions se sont appréciées et c'est le moment d'en vendre une partie. Et en vendant une partie des actions, ça leur permet, eux, de prendre des profits et ça contribue à la au décrochage du cours de bourse. C'est quelque chose d'assez évident et assez naturel, en fait. L'éclatement de la bulle voudrait dire que un grand nombre d'investisseurs qui ont mis beaucoup, beaucoup d'argent dans les entreprises d'intelligence artificielle feraient tous, de façon mimétique, le pari selon lequel ces valorisations sont beaucoup trop hautes et donc il faut être parmi les premiers à vendre pour pouvoir, quelque part, rentrer dans ces investissements et en ayant ce mimétisme au niveau du désinvestissement, on crée les conditions de l'éclatement d'une bulle. Donc il faut regarder qui sont les investisseurs. Et quand on regarde la nature et l'identité de ces investisseurs, on se rend compte que ce scénario il est quand même peu probable. Parce que ce qui change fondamentalement avec l'éclatement de bulles technologiques, comme on a pu le voir par exemple au début des années 2000, c'est que les investisseurs aujourd'hui sont un peu jugés partis. Les entreprises de l'intelligence artificielle sont les premiers investisseurs dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Elles font pas appel tant que ça à des capitaux extérieurs, en fait. Elles font surtout appel à leurs fonds propres parce que elles croient mordicus que dans leur capacité à pouvoir prendre des positions dominantes dans l'intelligence artificielle, bah, en fait, ça leur générera beaucoup de profits demain, après-demain et après-après-demain. Donc, ces entreprises-là sont non seulement jugées parties, elles investissent beaucoup sur leurs fonds propres et elles prennent des participations dans des entreprises que l'on présente un petit peu trop rapidement comme étant des concurrentes, alors qu'en vérité, elles forment ensemble, collectivement, un espèce de club de l'IA. Et ce club de l'IA, ils se tiennent tous un petit peu par la barbichette et personne n'a intérêt de faire autre chose que de voir la valorisation de ce club-là augmenter.
Alors, vous avez dit énormément de choses en peu de temps. On va illustrer, décortiquer, tenter de comprendre ce raisonnement. Mais avant cela, votre analyse, Benjamin Pageau, est-ce qu'il y a ou non une bulle en formation, une bulle qui pourrait un jour éclater dans le domaine de l'intelligence artificielle ?
Bon, alors, je vais commencer par dire que je ne suis pas économiste et donc tout ce que je dis, évidemment, est à prendre avec des pincettes. Moi, je viens des sciences politiques et de l'histoire, ça ne m'empêche pas de lire des économistes. Et à mon sens, il y a effectivement plutôt qu'une seule bulle spéculative, trois bulles sous-jacentes qui sont en formation. Et Julien l'a dit... Trois bulles dans la bulle. C'est pas pour autant qu'elles vont éclater, c'est pas pour autant qu'elles éclateraient toutes en même temps. Ça peut très bien se dégonfler. Il y aura effectivement des mécanismes de correction qui viendront lisser ça probablement dans le temps. Parce que, comme ça a été rappelé, il n'y a pas d'intérêt de ces acteurs-là pour l'instant à jouer les uns contre les autres. On est face à une oligarchie. Mais trois bulles dans la bulle. Moi, je vois effectivement donc, la bulle spéculative dont on parle avec cette survalorisation probablement d'acteurs dont la rentabilité pour l'instant n'est absolument pas garantie. Il n'y a qu'à regarder les prévisions d'OpenAI pour s'en convaincre. Hein, pas de rentabilité estimée avant 2030. Et chaque année, cet horizon recule. Mm-hmm. Même chose chez Anthropic qui arrive pourtant à dégager davantage de marge sur ses produits. Et donc, c'est à peu près le cas sur la majorité des grandes entreprises de l'IA aujourd'hui. Donc, bulle spéculative, bulle infrastructurelle, parce qu'aujourd'hui, en réalité, ces entreprises se sont lancées dans une course à la construction d'immenses centres de données à travers la planète, et particulièrement aux États-Unis. Et ces infrastructures ont une durée de vie limitée. Notamment parce que les matériels sur lesquels elles sont assises, les puces en particulier, ont des durées de vie limitées par rapport au cycle d'innovation. Et donc, on a des acteurs qui sont en train d'investir à coups de dizaines, voire centaines de milliards de dollars. C'est des montants, mais qui sont gigantesques et dont on peine à saisir réellement la qualité, qui sont en train d'investir donc dans des infrastructures qui seront peut-être obsolètes avant que le cycle de rentabilité de leur technologie ne soit atteint.
Sur cette bulle-là, la deuxième que vous êtes en train de dessiner, quelle est la durée de vie d'un centre de données que l'on se représente, là aussi, très concrètement les choses ? Est-ce qu'on le sait déjà ?
Alors, c'est très difficile à estimer. Pour ce qui est de la durée de vie des puces, on estime que, au regard des cycles d'innovation, ça peut être très court, de 6 mois à 3 ans, ça dépend de quoi on parle. La vraie question par rapport à ces centres de données, c'est qu'ils sont hyper spécialisés. Ils sont construits dans une optique de développer de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas la même chose que de rendre des services de cloud, comme peuvent le faire par ailleurs ces acteurs, et sur lesquels était basée la majorité de leur croissance jusqu'alors. Donc, la question qui demeure derrière ça, c'est en cas d'éclatement d'une bulle par défaut de capacité à rentabiliser les produits de ces entreprises, Que faire de ces infrastructures? Est-ce qu'ils seront en capacité de les réaménager, de les redéployer pour d'autres services? Et ça, on n'en a pas la moindre idée à l'heure actuelle, mais ça paraît peu probable selon les analystes spécialisés de la question.
Et une troisième bulle.
Et voilà. Et troisième bulle, alors là, c'est un avis plus personnel. Il me semble que de cette troisième bulle, j'aurais peut-être dû commencer par là, découlent les deux autres, c'est une bulle réputationnelle. Il y a énormément de battage médiatique, énormément de marketing autour de ce que peut l'intelligence artificielle, qui n'est d'ailleurs pas une technologie en soi. On parle toujours d'intelligence artificielle comme un sujet englobant. En réalité, il y a des intelligences artificielles, il y a différentes technologies derrière tout ça. Et celle qui prend le plus de place aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative, celle qu'on connaît à travers les ChatGPT et consorts. Et donc, une bulle réputationnelle dans la mesure où, en fait, on est face à des discours dominants de la part de ces grands acteurs pour nous expliquer que l'IA va tout changer et que l'IA va pouvoir résoudre peu ou prou la plupart des plus grands problèmes auxquels on sera confronté au cours du 21e siècle. Et c'est là que, à mon avis, risque d'abord d'être dévoilée une supercherie.
Alors commençons par cette dernière bulle, Julien Pillot, quand on parle de la réputation de l'intelligence artificielle. Si l'on compare cette réputation avec ce que l'on disait au sujet de cette nouvelle technologie il y a 6 mois, un an et demi, c'est vrai que la réputation de l'IA aujourd'hui est un petit peu ternie. Est-ce qu'il y a alors un risque que cela se traduise économiquement, non pas par une bulle, mais en tout cas par des investissements moins massifs ou par des acteurs qui se retireraient de ce secteur pour récupérer leurs capitaux?
C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu parce que...
Alors allons-y.
Parce que là, tu as mis le point sur quelque chose qui est vraiment très important. L'erreur peut-être originelle, c'est d'avoir fait un lien un peu trop systématique entre intelligence artificielle et intelligence artificielle générative. Et notamment l'intelligence artificielle générative qui repose sur ce qu'on appelle les LLM, c'est les Large Language Model, hein, les modèles de langage large.
Que le grand public connaît à travers ChatGPT, par exemple.
Exactement, ou Grok, ou d'autres IAG de ce type-là, intelligence artificielle générative, de ce type-là. Or, ces intelligences artificielles génératives, effectivement, sont souvent portées par des pure players, des acteurs spécialisés de ce type de modèle de langage, et captent beaucoup d'attention, et donc aussi beaucoup d'investissement. Or, peut-être que ces types d'intelligence artificielle-là sont, à moyen terme, les moins bien armés pour prendre des positions dominantes sur les marchés et surtout des positions dominantes rentables sur les marchés. Parce que les marchés auront peut-être moins besoin d'intelligence artificielle générative que d'intelligence artificielle applicative pour pouvoir résoudre des problèmes complexes que seule la machine peut résoudre de façon performative et avec un niveau de productivité suffisant pour que ce soit rentable d'acheter ces technologies-là pour les redéployer.
Est-ce que, parce que je me permets de vous couper pour tenter de comprendre moi aussi pas à pas, est-ce que ce que vous décrivez là, c'est lié à l'idée également qu'en matière d'IA générative, on sent que les modèles s'essoufflent, qu'ils ne parviennent pas à absorber autant de données neuves que la régénérescence du modèle le nécessiterait et que par conséquent, ils sont peut-être de moins en moins performants également?
C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'ils ont des besoins de nouvelles données qui dépassent la capacité de l'espèce humaine à en produire sur une année complète. Et donc, ce faisant, ces intelligences artificielles s'entraînent sur des données synthétiques. C'est quoi une donnée synthétique? C'est une donnée qui est la combinaison d'autres données, une combinaison originale réalisée par la machine elle-même en autonomie. Mmh. Et il n'y a pas de mécanisme de contrôle pour savoir si cette donnée synthétique est de qualité ou, au contraire, est de mauvaise qualité. Ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles génératives s'entraînent sur des données de mauvaise qualité et puissent, à la sortie, donner des résultats qui sont de plus en plus éloignés de celui qu'on est en droit d'attendre. Mais encore une fois, le focus sur l'IAG, à mon sens, nous occulte la partie la plus intéressante de l'intelligence artificielle, c'est la partie applicative, cette intelligence artificielle qui va permettre, lorsqu'elle sera déployée dans le domaine de la santé, de pouvoir faire de la santé prédictive, de pouvoir compléter des analyses médicales humaines par des analyses automatiques qui permettront peut-être de prévenir des maladies de façon beaucoup plus efficiente. C'est l'intelligence artificielle qui, appliquée dans le secteur du transport, va permettre de pouvoir faire de l'autonomisation à très grande échelle de la conduite, etc., etc. Et ces intelligences artificielles-là, on en parle beaucoup moins, et pourtant elles ont un potentiel de marché qui est largement supérieur, à mon sens, que les intelligences artificielles génératives. Et le point intéressant que tu as soulevé, c'est que effectivement, derrière les investissements qu'il y a aujourd'hui, et peut-être une certaine partie d'entre eux sont-ils spéculatifs, il y a néanmoins la recherche fondamentale et la recherche appliquée qui en bénéficient à plein, et il en ressortira forcément quelque chose.
Benjamin Pajot, est-ce que la réputation en général de l'intelligence artificielle est effectivement ternie par cette IA générative qui capte et les investissements et l'attention médiatique notamment ?
Je ne sais pas si elle est ternie. Quand on regarde effectivement la hauteur des montants qui sont investis, la croissance des usagers, semaine après semaine, je ne pense pas qu'elle soit ternie. En réalité, on est encore dans l'attente de savoir ce que ces technologies d'IA générative vont permettre d'achever pour l'humanité. Et c'est peut-être là que se situe le cœur du problème. Moi, j'ai envie de prendre des fois la question à l'envers. C'est-à-dire que je souscris évidemment à tout ce qui a été dit jusqu'ici sur la différenciation à faire entre IA générative et le reste de ces technologies qui sont pour le coup extrêmement, encore un potentiel extrêmement intéressant au regard de ce qu'elles peuvent apporter à l'humanité. Mais j'ai envie de prendre la question à l'envers. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui les montants qui sont investis, les montagnes d'argent qui sont brûlées derrière les trois bulles que j'ai essayé de présenter, on peut légitimement se poser la question de qu'aurait-on pu faire de cet argent à la place ? Et c'est la question qu'on ne pose jamais. C'est-à-dire que qu'aurait-on pu faire à la place de développer l'intelligence artificielle générative ? Quand on regarde aujourd'hui le marché de la construction aux États-Unis, 80% du marché de la construction est dédié à la construction des data centers, à un moment où évidemment la limite climatique est en passe d'être largement atteinte à tous les niveaux, et où on aurait terriblement besoin de ce secteur-là, par exemple, pour agir pour l'isolation des bâtiments et pour être en capacité de créer une société de demain du bâti qui réponde à l'urgence écologique.
Vous avez décrit l'un et l'autre une chose extrêmement importante, notamment cette idée selon laquelle les investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle circuleraient en vase clos. Alors il faut nous expliquer justement quel est ce paysage, Julien Pillot, et quel est aussi le lien entre, j'allais dire, cette capacité du secteur à garder pour soi ses investissements et le risque de bulle qui pèse sur lui-même ?
Alors, c'est pas facile à décrire comme ça. Ce serait plus simple si j'avais un tableau de cours pour pouvoir expliquer tout ça de façon très schématique. Mais lorsqu'on scrute en fait les investissements, lorsqu'on scrute les flux, lorsqu'on scrute les prises de participation ou tout simplement les flux commerciaux, qui est client de qui est fournisseur de qui, on se rend compte que ces grandes entreprises, qu'elles s'appellent Nvidia, qu'elles s'appellent Microsoft, qu'elles s'appellent OpenAI, qu'elles s'appellent Palantir, qu'elles s'appellent CoreWave, et d'autres, finalement, sont toutes connectées d'une manière ou d'une autre. Soit parce qu'il y a des prises de participation, soit parce qu'on sont fournisseurs et clientes les unes des autres, soit parce qu'elles ont carrément, pourquoi pas, fait des stratégies d'intégration horizontale de la filière ou verticale de celle-ci.
Vous disiez, elles se tiennent toutes par la barbichette.
Elles se tiennent un peu toutes par la barbichette parce que, finalement, elles sont toutes solidairement liées par un destin commun. Il faut que l'intelligence artificielle passe.
Alors, est-ce que ça... Prenez un exemple concret. Si l'on prend Nvidia, par exemple, qui est le mastodonte des puces qui permet notamment d'armer les calculateurs et les data centers aujourd'hui.
Eh bien, Nvidia est un fournisseur d'entreprises comme Alphabet, par exemple, enfin Google, comme Amazon ou comme Microsoft, qui sont des fournisseurs d'infrastructures cloud dans lesquelles on va évidemment entraîner, stocker des données et entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle dessus. Ça va être une entreprise aussi qui va prendre des participations chez Intel, qui fait des microprocesseurs. Bref, on voit beaucoup de ramifications de ce type-là, qui font que ces entreprises-là, finalement, elles sont toutes interconnectées entre elles, et elles ont toutes ce destin commun de dire « il faut que ça passe, il faut que ça passe ». Et peut-être que ce qui pourrait faire, effectivement, capoter leur dessein collectif, c'est un élément de preuve qui pourrait peut-être venir de Chine, qui consisterait à dire « Eh, vous avez vu, nous on est capable de faire des intelligences artificielles, qu'elles soient génératives ou applicatives, qui sont quasiment aussi performantes que les vôtres, voire plus performantes que les vôtres, avec beaucoup moins de ressources financières, technologiques, et avec une facture énergétique inférieure. » Si cet élément de preuve venait à venir, là, effectivement, les investisseurs pourraient commencer à prendre peur et se dire « On nous a fait prendre des vessies pour des lanternes. »
Mais je reste un instant, pardonnez-moi, sur... ce précaré fermé dans lequel investissent ces entreprises américaines, notamment de l'intelligence artificielle, est-ce que cela fait peser un risque plus fort de bulle ou bien parce que toutes et tous tiennent entre eux, alors ce risque-là s'éloigne légèrement?
Eh bien, il y a deux écoles. Il y a une première école qui consiste à dire que ça les affaiblit, parce que si un domino tombe, il peut entraîner les autres dominos dans sa
chute. La chute de tous.
Exactement. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième école, qui consiste à dire que pour l'instant, ces entreprises qui ont toutes la même volonté, qui ont toutes la même stratégie, le même objectif commun, finalement, ne peuvent pas faire autre chose que réussir et donc vont se soutenir mutuellement les unes les autres.
Benjamin Pageau, de quelle école êtes-vous?
Je vais prendre évidemment l'autre pour alimenter le débat. Non, mais simplement pour dire qu'effectivement, c'est...
Il y a un risque alors, parce qu'ils se tiennent tous.
Il me semble qu'il y a aujourd'hui un risque. Chacun est tour à tour, donc fournisseur, partenaire, acheteur, client. Et effectivement, la théorie des dominos, même si elle est à cette heure-ci encore improbable, n'est pas totalement à exclure. On a également un sujet sur le fait qu'aujourd'hui, ces entreprises ont recours massivement à l'endettement. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait beaucoup d'autofinancement en capitaux propres, en fonds propres ou en levée de fonds. Aujourd'hui, il semblerait quand même qu'il y ait des véhicules de financement qui soient relativement opaques et qui impliquent à la fois des grandes banques, des grands fonds d'investissement qui n'ont pas intérêt effectivement à perdre l'ensemble des montants qui sont placés dans ces entreprises. Et donc, on sent une fébrilité du côté des investisseurs et du côté du secteur bancaire sur la capacité de justement, en tout cas, des acteurs qu'on mentionnait tout à l'heure de l'IA générative à offrir un réel débouché par rapport au montant investi. Donc,
tous les acteurs s'endettent aujourd'hui parce qu'on a longtemps dit dans l'intelligence artificielle on investit sur fonds propres, largement sur fonds propres, c'est uniquement du capital. Est-ce que là, la prise de risque est véritable et partagée, j'allais dire, par ces acteurs?
Alors, elle n'est pas totalement partagée. Un acteur comme Nvidia, aujourd'hui, a assez peu recours à l'endettement. C'est l'acteur qui est au centre du jeu. Mm-hmm. Donc, c'est l'acteur probablement le plus stable à horizon moyen-long terme. D'autant plus qu'il existait, par ailleurs, avant de faire de l'intelligence artificielle, même si avec, évidemment, une croissance bien moindre que celle qu'il connaît aujourd'hui. Mais d'autres acteurs comme Meta, par exemple, comme Google, comme Amazon, ont recours massivement à l'endettement et à des endettements à des taux relativement élevés. Hein. C'est de 6 à 10% aujourd'hui sur certains projets, et ce qui représente à terme des plafonds de remboursement extrêmement importants. Et dans le cas où on ferait face à l'éclatement d'une bulle, encore une fois, liée aux capacités de ces acteurs à éprouver leur modèle et à les rentabiliser, se pose quand même la question de voilà, qui va payer in fine en cas de pépin.
Et on va y venir évidemment à cette question majeure, mais avant cela, la voix du PDG de la multinationale Nvidia. On a cessé d'en parler au cours de cet entretien. Il s'exprimait le 16 juillet dernier.
AI is fundamental infrastructure.
Aujourd'hui, l'IA est une infrastructure fondamentale, comme l'était auparavant l'électricité et l'Internet. L'IA révolutionne la chaîne d'approvisionnement, changeant la façon dont nous construisons et déplaçons les choses. Ce sont des mondes virtuels qui travaillent en toute sécurité, aux côtés des personnes dans le monde physique. D'ici 10 ans, les usines seront alimentées par des logiciels et l'IA, orchestrant des équipes de robots travaillant aux côtés des personnes, construisant des produits intelligents, également pilotés par l'IA. L'IA sera au cœur de chaque industrie, de chaque entreprise, de chaque produit et de chaque service.
Je voudrais qu'on revienne, Julien Pillaud, sur cette place assez fascinante hein, dans le paysage de l'intelligence artificielle d'NVIDIA. Comment l'expliquez-vous? Comment se fait-il que cette entreprise ait réussi à se placer à ce point et si rapidement au centre du jeu?
Alors déjà, Nvidia a un historique assez important. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les cartes graphiques que l'on peut mettre dans les systèmes de jeux, que ce soit des PC ou des consoles. Et ces cartes graphiques, elles n'ont cessé de gagner en puissance ces dernières années parce qu'on a eu besoin de recourir à toujours plus d'effets spéciaux dans les films ou des jeux vidéo avec des effets waouh toujours plus ébouriffants. Et c'est ces cartes graphiques que Nvidia, mais que d'autres entreprises comme AMD, par exemple, peuvent éventuellement fournir, ce sont ces graphiques qui donnent cette capacité de calcul et de puissance. Ce qu'a réussi à faire Nvidia, c'est de breveter une technologie au milieu des années 2010 qui permet en fait de mettre en parallèle ces cartes graphiques, ce qui permet en fait de les faire travailler de concert sur des tâches toujours plus complexes, qui nécessitent toujours beaucoup plus de puissance de calcul. Et c'est là que les cartes graphiques vont devenir quelque part quelque chose de beaucoup plus important dans une architecture informatique que les microprocesseurs classiques, les CPU tels que Intel par exemple peut les proposer. Et finalement, ces data centers qui sont dédiés à l'entraînement des algorithmes d'intelligence artificielle sont finalement composés quasi essentiellement de plusieurs centaines de milliers de cartes graphiques, souvent d'NVIDIA, montées en parallèle les unes avec les autres, ce qui leur permet d'avoir cette puissance de calcul qui est nécessaire à l'entraînement des algorithmes. Et donc, si vous avez besoin de cette puissance de calcul pour pouvoir entraîner vos intelligences artificielles dans des data centers qui sont entièrement dédiés à cela, vers qui vous tournez-vous ? Vers NVIDIA. Et aujourd'hui, la variation d'NVIDIA est la résultante de ce phénomène, en fait.
Benjamin Pageau, comment est-ce que vous l'analysez, cette place absolument centrale d'NVIDIA aujourd'hui dans le paysage de l'IA ?
De la même manière, par le matériel qui reste fondamental aujourd'hui quand on parle de technologie, au-delà de l'IA, de technologie informatique en général.
Ils détiennent la matière première.
Ils détiennent la matière première. En tout cas, ils détiennent le produit issu de la matière première et le produit que tout le monde s'arrache jusqu'à présent, des États-Unis jusqu'en Chine. Il faut bien comprendre que les succès chinois relativement récents, notamment, il y a eu toute une affaire DeepSeek en début d'année, sont probablement à mettre au crédit du fait que les acteurs chinois du marché ont été en capacité de s'approvisionner en plus NVIDIA en amont des sanctions américaines et en les contournant. Donc c'est un produit qui aujourd'hui est central dans l'industrie de l'IA au sens large et plus précisément encore dans ce qui touche à l'intelligence artificielle générative qui demande un accès à des ressources démentielles. Et c'est là où je rejoins ce que je disais sur qu'aurait-on pu faire à la place que de développer ces intelligences-là. Je suis pas certain qu'aujourd'hui la priorité doive être mise sur le développement d'outils génératifs qui consomment, parce qu'ils produisent de la vidéo, de l'image, du son et parfois, même très souvent, du texte, alors que précisément, l'intelligence artificielle dans son aspect plus large et applicatif peut permettre de résoudre des problèmes bien plus immédiats dans tout un tas d'autres secteurs.
Vous qui tentez, Julien Pillaud, de nous rassurer depuis le début de cette émission sur la fausse bulle de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous répondez quand même quand Benjamin Pageau explique que le niveau d'endettement des investisseurs dans ce secteur, dans ce domaine, est de plus en plus important, contrairement à ce qu'on observait il y a quelques années encore ?
Alors, on n'est déjà pas capable de complètement observer les niveaux d'endettement de tous les acteurs qui investissent dans ces marchés.
Il y a quelques informations publiques quand même qui fuient sur Google en Europe et d'autres entreprises aux États-Unis.
Non, ce qui est évident, c'est que il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, il y a une hypertrophie des marchés financiers. On n'a jamais eu autant de capitaux qui circulent sur les marchés financiers. Des acteurs comme BlackRock qui géraient fin 2024, ce sera plus fin 2025, plus de 11 500 milliards d'actifs. Des acteurs comme
BlackRock,
Vanguard.
C'est un fonds d'investissement.
Exactement.
Très, très grand fonds d'investissement.
C'est la résultante, en fait, où c'est des marqueurs de marchés financiers qui, aujourd'hui, disposent de beaucoup de liquidités. Et ces marchés financiers, évidemment, cherchent à panacher le risque. Et parmi les actifs sur lesquels ils peuvent investir aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres, on va dire, débouchés que l'intelligence artificielle qui promettent, monnayant un certain niveau de risque, des retours sur investissement plus ou moins lointains aussi, on va dire, attractif que l'intelligence artificielle. Le métavers, on a vu que ça n'a pas trop fonctionné. Les crypto-monnaies, on voit qu'on est un petit peu sur un espèce de plateau. Donc, il reste quoi ? Il reste un peu l'intelligence artificielle. Donc, ça attire ces capitaux-là.
Donc, vous nous dites, on reste au fond dans des décisions strictement rationnelles que les investisseurs, font pour panacher, minimiser le risque.
Rationalité individuelle, très probablement. Après, la question, encore une fois, c'est la question de la rationalité collective. Et là, on rentre dans des modèles de décision en théorie des jeux, de façon asymétrique et non coopérative, qui nous amèneraient très très loin, en fait, dans la discussion. On va essayer d'éviter ça pour les auditeurs. Mais en revanche, le deuxième point, c'est effectivement, quelle est la structure d'endettement des entreprises en question ? Évidemment, lorsque vous êtes Microsoft et vous êtes capable, en l'espace de 2 ans, de mettre 80 milliards d'euros sur la table, enfin de dollars sur la table, pour acheter Activision Blizzard, et 2 ans plus tard, mettre 125 milliards de dollars sur la table pour prendre des positions dominantes, majoritaires, chez OpenAI, et que chaque année, vous faites, après impôt, 100 milliards de revenus après impôt, enfin de bénéfices après impôt, La situation est moins inquiétante que pour des pure players, des acteurs spécialisés d'intelligence artificielle comme CoreWeave ou Palantir, qui, eux, n'ont que les promesses de retour sur investissement futur à vendre à leurs clients. Donc effectivement, on revient sur la théorie des dominos tout à l'heure, il peut y avoir à un moment donné des dominos qui peuvent trébucher. La question est de savoir si ces dominos en trébuchant peuvent entraîner dans leur chute des acteurs aussi forts avec des fondamentaux aussi solides qu'Alphabet, Microsoft ou Amazon. Ça me paraît déjà un peu plus improbable.
Vous qui êtes tourné, messieurs, vers l'avenir, je voudrais vous ramener à l'an 2000, l'année d'un crash boursier lié justement aux technologies dites de l'Internet.
14 avril 2000, vendredi noir à Wall Street. Le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, baisse de 9% en une journée. Les valeurs vedettes du marché sont les plus touchées. En un an, Yahoo et Amazon.com vont chuter de 80%. Les cours s'effondrent.
Ça y est, ça traite.
Dans les salles de marché, c'est la panique. Aux États-Unis comme en Europe, des milliers de start-up mettent la clé sous la porte. Elles laissent sur le carreau leurs salariés et tous les petits épargnants qui avaient cru en elles.
On aimait bien la partie instrumentale de cet extrait sonore qui permettait justement d'apeurer un peu le téléspectateur de l'an 2000. Benjamin Pageau, est-ce que la situation pourrait être comparable à ce qu'on a observé en l'an 2000 ou bien la structuration du marché des nouvelles technologies est radicalement différente ?
Alors, la structuration est très différente. En l'an 2000, c'était essentiellement des startups, des petites boîtes qui ont explosé en profitant donc de cette bulle au départ autour de ce qu'on a appelé les dot-com, les point-com, la création de plein d'entreprises qui ont profité de cette vague-là et qui effectivement investissaient pour la plupart en fonds propres et se sont écroulés en partie en ayant recours à du crédit. Mais on est vraiment sur quelque chose d'assez différent aujourd'hui. On l'a mentionné, c'est des acteurs systémiques qui sont au cœur de cette bulle-là, et c'est effectivement ce qui plaide pour le fait qu'ils ne vont pas disparaître, quoi qu'il arrive. Quand bien même la bulle éclaterait, peut-être que effectivement des pure players de type OpenAI, même si j'en doute à l'heure actuelle, ou d'autres pourraient être plus largement impactés. En réalité, ces grands acteurs-là devraient s'en sortir haut la main, d'autant plus que le choix d'investir dans ce secteur est très rationnel et il est porté par la dynamique politique en cours aux États-Unis. Le simple fait que Donald Trump en ait fait un projet national et qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle représente le principal vecteur de croissance aux États-Unis et donc un pari sur lequel l'administration Trump tout entière est en train de pousser.
C'est une forme d'assurance, de garantie pour le secteur tout entier.
Tant que l'administration Trump sera aux manettes, même quand bien même elle est imprévisible, pour l'instant c'est une garantie extrêmement solide et c'est ce qui explique les montants aujourd'hui faramineux qui sont investis. Et le fait que la plupart de ces grands acteurs se dégagent de toute responsabilité sociale. Là où ils avaient encore des discours il y a 2 ou 3 ans qui étaient fondamentalement différents. Le simple fait qu'ils soient soutenus par Trump et ses affidés fait que c'est une assurance vie, de fait, à partir du moment où vous êtes la première puissance mondiale.
Julien Pillaud, sur cette comparaison avec le crash boursier du début du siècle, comment vous l'analysez ?
Ah ouais, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Vraiment, on est en plein dedans. Et c'est vrai que finalement, quand on y réfléchit bien, ces entreprises qui, pour la plupart d'entre elles, ont des fondamentaux très solides, sont des entreprises qui dominent sans partage les marchés sur lesquels elles sont extrêmement fortes, qu'il s'agisse de Microsoft, qu'il s'agisse d'Amazon, qu'il s'agisse d'Nvidia, qu'il s'agisse d'Alphabet. Une fois qu'elles sont en plus soutenues par l'establishment, alors elles deviennent en fait encore plus too big to fail, en fait trop grosse pour échouer. On voit mal ce qui pourrait contrarier leur plan aujourd'hui, sauf un choc exogène absolument imprévisible qui viendrait évidemment balayer toutes les certitudes en cours. Mais c'est vrai que par rapport à la bulle de l'Internet des années 2000, il y a absolument rien de comparable parce que les levées de fonds étaient pas de même nature en fait à l'époque. À l'époque, on avait des startups qui se finançaient par le recours massif au marché, qui faisait des introductions publiques, des IPO, on appelle ça, de façon extrêmement précoce, de façon à pouvoir lever des fonds qui leur permettaient derrière de vendre leur poudre de perlimpinpin sur quelque chose qui était extrêmement nébuleux, Internet, très peu démocratisé, versus aujourd'hui des entreprises qui sont extrêmement fortes, qui maîtrisent leur technologie, qui maîtrisent leurs services, qui ont de très bons fondamentaux et qui financent en partie sur fonds propres leurs investissements dans l'intelligence artificielle. L'histoire n'est évidemment pas la même.
Benjamin Pageot.
Oui, il y a une autre comparaison à laquelle on fait face en ce moment, c'est de nous dire que ce qui se passe ressemble à la bulle de 1840-1847, la bulle des chemins de fer à l'époque, avec un déploiement infrastructurel massif du chemin de fer à travers le monde et des acteurs qui s'étaient retrouvés, évidemment, après avoir investi des montants massifs, sans le sou au moment où le chemin de fer ne prenait pas encore et qu'il a fallu rembourser ses accumulations de dettes. Je ferai une différence par rapport à cette période-là, c'est que, effectivement, l'argument étant derrière cette comparaison de dire c'est pas grave si la bulle de l'IA va éclater parce qu'elle nous laissera des infrastructures. On l'a mentionné au début de l'émission, les infrastructures, les centres de données aujourd'hui,
elles sont périssables.
Elles sont a priori périssables. Donc on est évidemment dans une comparaison qui, pour l'instant, là encore, sert les discours des plus grands acteurs du secteur qui tendent à vouloir rassurer les marchés dans un moment d'excitation où, comme on peut le voir, la moindre petite étincelle peut faire basculer des valorisations qui, par ailleurs, connaissent des hausses extrêmement rapides et donc des baisses qui le sont également.
Julien Puyot, je sors donc de votre scénario, si une bulle éclatait tout de même, qui paierait aujourd'hui les pots cassés de cette affaire?
Excellente question. Déjà, les investisseurs au premier rang, évidemment.
Les investisseurs, vous nous dites que ce sont les acteurs eux-mêmes.
Alors, oui, en partie. en partie, et en partie importante des investissements, mais effectivement, il y a d'autres fonds d'investissement, il y a des fonds de pension, il y a des fonds souverains aussi qui investissent dans l'IA, et eux, effectivement, pourraient éventuellement perdre une partie de leurs investissements si la bulle devait éclater. Moi, je me raccroche sur le fait que, effectivement, autant il y a une incertitude sur les infrastructures et le fait qu'elles puissent être redéployées pour faire autre chose que de l'entraînement de l'intelligence artificielle. Peut-être peuvent-elles être redéployées pour faire du stockage de données et des appels distants de services comme le streaming, par exemple. Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'on pourrait aussi recycler un petit peu ce qui est à l'intérieur. Mais toujours est-il que sur le plan de la recherche fondamentale, la recherche appliquée, là, aujourd'hui, on a des laboratoires qui ne manquent pas de moyens pour pouvoir avancer. Et ça, c'est du temps gagné sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et quelque part, il en sortira quelque chose de bon, ça j'en suis convaincu.
Même question, Benjamin Pageot. Si la bulle éclatait un jour, on est là dans la fiction, on a bien compris que ce n'était pas le scénario privilégié, qui se retrouverait tout de même à payer la facture?
Je pense que les retraités américains sont en première ligne aujourd'hui parce qu'ils souscrivent à des fonds de pension. C'est un peu différent en Europe. Maintenant, si dans le cas d'une théorie des dominos, si on allait vers une crise systémique, évidemment, là, tout un chacun serait amené à payer les pots cassés et probablement les consommateurs en premier lieu. Et évidemment, dans le cas où, comme c'était rappelé tout à l'heure, on considérait ces entreprises too big to fail, trop grosses pour s'effondrer, eh bien, qui mettra au pot? C'est évidemment l'État américain, mais les autres États qui s'engageraient dans cette direction-là, d'autant plus dans un monde où les rapports de force sont revenus au premier plan et où Trump dicte sa loi à peu près à l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Donc, il y a de fortes chances que, dans le cas où cette bulle éclaterait, en réalité, il y aurait des effets en bout de chaîne sur tout un chacun.
Merci beaucoup, messieurs. Vous avez été extrêmement didactique sur un sujet technique extrêmement compliqué, mais pour ma part, j'ai trouvé ça clair. J'ai réussi à comprendre l'essentiel de vos propos. Julien Puyot, vous êtes économiste et enseignant-chercheur à l'INSEC Business School. Benjamin Pageot, vous êtes chercheur associé au Centre géopolitique des technologies de l'IFRI. Et peut-être vous recommander cette émission sur l'application Radio France, émission que nous avions animée dans Question du soir et intitulée « La super intelligence artificielle va-t-elle dépasser les humains ?» C'est une émission qui vous permettra peut-être d'approfondir ce sujet et toute la série que l'on a commencé sur l'intelligence artificielle depuis le début de l'année. Un autre exemple, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les écrivains? Et merci également à toutes celles et ceux par ailleurs qui ont pensé, préparé cette émission. Juliette Mouélic, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Antoine Héral, à suivre après le journal en pleine COP30 qui se tient au Brésil, à Belém. Une question, la Chine peut-elle devenir la première puissance climatique du monde?